troisième édition de cette émission sur l'éducation positive. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Ripoll. Antoine, je vous laisse vous présenter en quelques mots.
Donc moi, je m'appelle Antoine Ripoll. Je suis le papa de deux enfants, un grand garçon qui s'appelle Amelio, qui a 3 ans et demi, et un deuxième, Manoé, qui a 15 mois. Et avec ma conjointe, on essaye de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a reçu aussi dans notre éducation, mais voilà, d'avoir en tout cas une approche bienveillante auprès de nos enfants.
Qu'est-ce qui vous a emmené vers cette forme d'éducation, comme on pourrait dire l'accompagnement vers l'âge adulte de vos enfants?
J'ai posé la question à ma conjointe parce qu'en fait, je ne me souvenais pas. Au début, je me suis posé la question. Et en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses dans notre vie qui nous a mené petit à petit à tout ça. Il n'y a pas eu de déclencheur, comme on peut le lire des fois sur Internet ou sur des blogs. Il n'y a pas eu de déclencheur vraiment dans notre vie qui a fait qu'on a vraiment changé notre manière d'être auprès de nos enfants. Par contre, voilà, on a vécu, en fait, notre premier enfant, on l'a eu, on était à l'étranger, on était aux Pays-Bas. Ça faisait 2 ans que moi je vivais avec ma conjointe là-bas. Elle était déjà depuis de nombreuses années dans ce pays. Et c'est vrai qu'aux Pays-Bas, ils ont une approche vraiment différente en termes d'éducation, donc que ce soit en termes de parentalité, en termes d'instruction, de scolarité. Même la question de la famille est vraiment différente par rapport à ce qui existe en France, et puis sur toutes les thématiques, sur la santé, etc. Et en fait, voilà, je pense qu'on a été baigné un petit peu là-dedans. On a vu d'autres parents agir différemment que ce dont on avait l'habitude, nous, dans notre famille ou dans nos amis en France. Et voilà, donc je pense que ça a commencé à créer un terreau autour de tout ça. Et ça s'est renforcé au fur et à mesure. Donc quand on a voulu avoir des enfants, ne serait-ce que toute la période de la maternité, de l'accompagnement à la grossesse, voilà, ils ont vraiment des approches très différentes. Ils sont vraiment à l'écoute des projets des parents, des projets de naissance des parents. Et même au moment de l'accouchement, ils en prennent vraiment compte et rigueur. Donc ils ont toute une approche qui nous a peut-être permis de s'autoriser à faire différemment que ce qu'on connaissait. Et voilà, après, au fur et à mesure des expériences, quand notre enfant a commencé à grandir, qu'on a commencé à se renseigner, à se poser des questions, parce que ça ne fonctionnait pas comme on l'imaginait, parce qu'on était en difficulté sur certaines thématiques. Donc voilà, on a commencé des lectures, à se renseigner sur Internet, à suivre des blogs, à regarder des reportages pour voilà, commencer à s'alimenter petit à petit.
Donc vous avez vécu aux Pays-Bas, qu'est-ce qui était différent dans l'éducation des enfants et aussi à l'école? Enfin, si vous avez eu l'occasion de voir des écoliers là-bas, des collégiens, qu'est-ce qui était différent par rapport à la France en matière d'éducation?
Ce qu'on a vraiment vu, nous, en fait, vraiment on a vu qu'il y avait une différence, c'est quand on s'est renseigné pour les crèches. On a dû s'y renseigner très tôt parce qu'il faut plus d'un an pour avoir une place en crèche, donc aussitôt qu'on sait qu'on a envie d'un enfant, il faut commencer à préparer tout ça. Et en visitant les toutes premières crèches, en se renseignant, on nous parlait d'accompagnement Montessori. C'était des équipes qui étaient complètement ouvertes à des pratiques. Par exemple, je ne sais pas moi, d'avoir des couches lavables, ça ne posait aucun problème, c'était complètement naturel. Et on l'a vu aussi chez des couples d'amis qui étaient néerlandais. Je me souviens d'un moment, donc on était avec ce couple-là, qui avait un petit garçon, il devait avoir, je ne sais pas, peut-être 2 ans tout juste. Et ce petit garçon venait de faire ce qu'on appellerait une bêtise en France, ce qui pour nous maintenant serait plus de la maladresse ou de l'expérimentation. En tout cas, je crois qu'il avait cassé quelque chose ou abîmé quelque chose. Et voilà, à l'époque, on n'était pas du tout là-dedans, ou en tout cas beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et on a vu ce papa s'approcher, se mettre à sa hauteur, lui parler calmement. Donc il n'y a pas eu de punition, il n'y a pas eu de correction, il n'y a pas eu de tape sur les mains, il n'y a pas eu de cri. Ce papa qui s'est mis à sa hauteur, qui lui a expliqué, qui lui a réexpliqué les règles dans la maison et qui lui a proposé, plutôt que d'expérimenter là, alors je ne sais plus ce que c'était, de le faire sur autre chose. Et voilà, c'est une petite expérience qui est venue nous nourrir, qui nous a questionnés. Finalement, dans la société néerlandaise, l'enfant a vraiment une place dans cette société-là. Il y a beaucoup de cafés qui sont adaptés pour les enfants. Il y a toujours des jeux, il y a toujours du mobilier à leur disposition. Voilà, il y a vraiment cette culture de l'enfant a une place dans la société, il est en capacité de choix, il peut avoir des avis aussi, il peut avoir son mot à dire, il peut avoir le droit d'exprimer ses émotions aussi. Et voilà, tout ça, on l'a vu au quotidien. Donc après, en termes de scolarité, toutes les écoles ont des pédagogies vraiment qu'elles appliquent pour chaque école, que ce soit Freinet, Montessori, etc. Donc elles ont cette liberté-là aussi de pouvoir expérimenter des choses. Et voilà, sur... Et ça pousse même jusqu'au lycée. on n'a pas pu l'expérimenter, nous. En tout cas, on l'a vu faire et on en a entendu parler.
Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu la pédagogie Montessori?
Oui, après, je ne suis pas du tout expert.
C'est pas grave.
Ok, pour la pédagogie Montessori, bon, c'est né de Maria Montessori, qui s'était déjà inspirée d'autres travaux, d'autres éducateurs, où l'idée, en fait, ça part du principe, il me semble, peut-être à préciser, que les enfants, bon, déjà, c'est important de connaître le développement de l'enfant. Il y a des choses qui se passent au sein des enfants, dans leur développement sensoriel, dans leur développement moteur. Il y a des étapes, il y a des périodes sensibles, et c'est important d'adapter l'environnement à l'enfant pour que cet enfant puisse finalement profiter et s'épanouir au maximum de ses capacités. Donc elle s'est inspirée d'autres matériels, mais elle a redéveloppé du matériel qui permette d'affiner certains sens, d'affiner des capacités sensorielles ou des capacités motrices. Donc voilà, il y a toute cette pédagogie qui existe autour, qui est reprise maintenant aussi par d'autres personnes. Je pense entre autres, nous on s'intéresse beaucoup aux travaux de Céline Alvarez. Donc voilà, l'idée sera de favoriser un environnement qui soit propice aux apprentissages de l'enfant, parce qu'ils ont des étapes de développement, parce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous, parce qu'ils ont certains besoins, et voilà, ils ont certaines contraintes aussi cognitives, qui fait qu'ils ne peuvent pas tout déployer d'un coup. Donc voilà, c'est l'idée de partir, améliorer l'environnement. Et nous, c'est des choses qu'on applique aussi à la maison. À titre d'exemple, très rapidement, on s'est aperçu que notre petit était en capacité d'aller dans le tiroir, qu'il voulait manipuler des choses, qu'il voulait manipuler des objets. Donc plutôt que de lui interdire plein de choses dans la maison, on s'est organisé pour qu'il puisse finalement s'épanouir, à faire tout ça, à se développer avec des choses du quotidien. Parce que quand il nous voit manipuler des saladiers avec des cuillères, quand il nous voit manipuler des livres, il a aussi envie de faire les mêmes choses. Il a envie de pouvoir ouvrir un livre et de passer page par page. Donc on s'est organisé dans la maison pour que tout soit sécurisé, mais qu'il puisse évoluer au bon gré. Donc il avait le droit d'aller dans la cuisine, il avait le droit d'ouvrir certains tiroirs. Ceux où vraiment c'était trop dangereux, on les bloquait, mais il avait au moins la possibilité de pouvoir aller chercher des casseroles, des cuillères, et de s'amuser avec tout ça, et de découvrir et d'expérimenter par lui-même.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. En tant que parent, vous avez adapté votre lieu de vie, votre maison, pour pouvoir accueillir les expériences que votre enfant veut faire, par exemple, pas des couteaux, des fourchettes qui coupent, mais en plastique, par exemple, peut-être.
C'est sûr que les choses étaient adaptées à son âge aussi, et puis à ses capacités aussi, pour pas qu'il se blesse. Maintenant, très rapidement, je pense à mon petit dernier qui a 15 mois aujourd'hui, mais très rapidement, aussitôt qu'on a commencé, pareil en termes d'alimentation, on n'a pas donné de compote. On a fait la diversification menée par l'enfant. Donc très rapidement, il s'est saisi de morceaux de fruits, de morceaux d'avocat, de morceaux de banane entiers. Par contre, il y a des choses à respecter avant ça. Parce que voilà, pour une question de sécurité aussi, il faut attendre que l'enfant soit prêt pour pouvoir le faire. Mais très rapidement, il a voulu prendre une fourchette pour pouvoir le faire. Bien souvent, les fourchettes en plastique, elles ne sont pas si adaptées que ça aux enfants. Donc il y a une fourchette en métal aussi, à sa taille, mais voilà, il a très rapidement voulu faire comme nous, et a piqué avec sa petite fourchette. Je ne sais plus quel âge il avait, peut-être 8, 9 mois. En tout cas, voilà, il prenait déjà cette fourchette-là pour manger comme nous. Parce qu'il a certainement aussi un grand frère qui est derrière, qui le tire beaucoup, et qui, voilà, ils sont très ensemble souvent tous les deux. On sent que, je pense que c'est quelque chose aussi qui a changé pour nous. On a clairement changé notre regard auprès des enfants aussi, et il y a tout un monde qui est, enfin, en tout cas pour ma part, qui est vraiment très intéressant, où les enfants ont vraiment cette capacité à s'émerveiller, à s'intéresser à des choses, à répéter les actions jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Et voilà, ils sont endurants. Ils feront jusqu'à ce que vraiment ils parviennent à ce qu'ils souhaitaient faire. On a peut-être tendance, en règle générale, à trop limiter leurs capacités parce qu'on veut les sécuriser, parce qu'on a peur qu'ils se blessent ou on a peur qu'ils expérimentent. Nous, on essaye au contraire de favoriser tout ça pour qu'ils puissent apprendre d'eux-mêmes aussi, qu'ils puissent connaître leurs propres limites, qu'ils puissent être en confrontation avec leurs propres peurs, avec leurs propres craintes. Donc on ne va pas nécessairement les encourager de manière abusive à faire quelque chose s'ils ne se sentent pas capables, tout comme on ne va pas les empêcher de faire quelque chose s'ils se sentent capables. Donc voilà, s'il veut grimper une échelle, qu'il grimpe une échelle. Par contre, je suis derrière pour le sécuriser au cas où, à distance, et je lui explique. Voilà, on essaye vraiment à la fois de favoriser un environnement qui soit sécurisé, mais qui permette pleinement qu'en fonction de leurs envies, ils puissent faire ce qu'ils voulaient. À titre aussi d'exemple, je me souviens je ne sais plus c'était lequel des deux, qui adorait tirer la chasse d'eau. C'était quelque chose qui l'intriguait, il allait aux toilettes, il tirait la chasse d'eau, sauf que concrètement, ça utilise de l'eau, ça gaspille de l'eau, ça finit par coûter cher. Donc au bout d'un moment, quand on avait fini d'aller aux toilettes, on appelait notre fils pour qu'il vienne tirer la chasse d'eau. Et c'était lui qui tirait la chasse d'eau, parce qu'il était passionné par ça, il adorait voir le tourbillon qu'il y avait à l'intérieur. Mais au moins, il pouvait expérimenter ça, il pouvait expérimenter le mécanisme, on s'amusait à dévisser les toilettes pour qu'il regarde à l'intérieur comment ça fonctionne. Je pense pas qu'il ait vraiment compris, mais au moins, il avait ce besoin-là, et on allait jusqu'au bout. Et c'est passé en 15 jours. Et après, voilà, il a fini par épuiser ce besoin-là, il est passé à autre chose. Et on n'a pas dû lutter ou fermer les toilettes ou l'empêcher d'évoluer tranquillement dans l'appartement. Donc on essaye en règle générale de toujours réorienter au maximum de ce qu'on peut et aussi de ce qu'on est capable de faire, leurs envies.
Question, est-ce que ça vous arrive de leur dire non ? Ou est-ce que vous évitez au maximum ce non ? Parce que je me suis rendu compte aussi étant maman et puis ayant vécu aussi ça dans ma famille, bon... avec l'éducation que j'ai reçue, que le non était souvent présent. Non, ne fais pas ça, mais c'était beaucoup de la peur, en fait. La peur que l'enfant se fasse mal, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous arrivez à l'éviter, ce non ?
Alors, le non était beaucoup plus simple à éviter pour le premier, beaucoup plus difficile pour le deuxième, parce que je pense qu'on se fait vite prendre aussi par le quotidien. Ce qu'on a constaté, par contre, je pense qu'il y a, voilà, faut s'adapter à l'âge de l'enfant et comprendre aussi pourquoi on dit non. Est-ce que c'est un non ? Parce que, clairement, il peut être en danger. Dans ce cas-là, il peut être effectivement justifié. Peut-être plutôt que de dire non, dire stop à la place. Parce que déjà, un non, c'est peut-être pas aussi... ça n'a pas le même sens que stop. Si on veut qu'il arrête quelque chose, il vaut mieux dire stop plutôt que non. Et ensuite, voilà, se poser la question du non. Je sais que nous, le non, on l'a beaucoup retiré. Parce que, en général, effectivement, soit il y avait vraiment danger et on voulait qu'il arrête l'action. Dans ce cas, c'était plutôt stop. Soit si vraiment il y avait un non. Je crois que finalement, il y a rarement des raisons d'avoir un non. C'est peut-être lié à nos peurs. Et peut-être d'abord observer, voir ce qui se passe, sécuriser s'il y a besoin. Et au moment où il peut vraiment y avoir danger, on repasse sur du stop et pas du non. Parce que le problème du non, c'est qu'à force de dire non, notre enfant va aussi choper le non et va faire sa crise du non à son tour aussi. Et après, il va être dans une opposition parce qu'il a appris qu'on pouvait dire non et qu'on pouvait s'opposer à des choses. Et ça s'enchaîne, on se retrouve dans des combats de non et de non et de non et de non. Après, c'est la théorie, il y a la pratique qui va derrière et c'est pas toujours aussi simple non plus. Donc pour le deuxième, parce que deux enfants, ça demande beaucoup plus d'investissement, ça demande plus de présence, c'est des choses qu'on a un peu plus loupées. Et son petit frère qui lui dit beaucoup plus non aussi, donc ça revient aussi. Mais on essaye en tout cas de garder en tête que si y a non, c'est peut-être déjà parce qu'on a peur de quelque chose, donc ça nous appartient. Et qu'à la place, il vaut peut-être mieux dire stop. Encore une fois, ça rapporte aussi à nous, à notre système de pensée, à notre éducation, à nos habitudes. Et ça demande une certaine part d'énergie, un certain investissement aussi à réinterroger tout ça.
Exactement. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer cette réflexion.
أفوز حفوز وين دوينو إيران فتو إيميك سيميك أفوز حفوز وين دوينو إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain and come downtown I will come come downtown to you now, 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 downtown to you now, now, now. So baby, won't you please open the door and let me in till we can forget all, just you and me. Your kiss, your smile, your lips. I need to see, I need to see you now.
I'll leave the sun for the rain. I'll leave the sun for the rain. I'll leave the sun for the rain. And come downtown, down, down to you now. Downtown, down, down to you now.
De retour sur les ondes de Fréquence Mistral pour cette chronique sur l'éducation créative en compagnie d'Antoine Ripoll. Antoine, vous allez prochainement ouvrir un café à Gap qui sera dédié aux familles et aux enfants. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Pourquoi cette idée ? Comment ça vous est venu et en quoi ça va consister ?
Donc effectivement, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Grandir Ici et on porte, donc on est quand même voilà, en tout une dizaine de bénévoles, hein, une bonne dizaine même, à porter un projet de création d'un café parents-enfants. Donc aujourd'hui il s'appelle Le Petit Caf, ça changera certainement au courant de l'été parce que les choses se concrétisent. Ça fait à peu près un an en fait que l'idée a émergé. Donc c'est parti de deux personnes, Élise Charéron et Magali Benoît, toutes deux mamans ou futures mamans, qui trouvaient que c'était difficile à Gap de trouver un endroit où se retrouver entre parents, entre amis, avec des enfants, qui soit autant adapté pour les grands que pour les plus petits. Et elles se sont dit bah, pourquoi pas essayer de créer quelque chose dans l'esprit. Donc elles se sont inspirées beaucoup de ce qui existe partout en France, les cafés des enfants. Elles sont parties de ça. Elles ont envoyé aussi un questionnaire via les réseaux sociaux. Il y a eu 500 réponses en 5 jours. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et ce qui ressortait sur le territoire gapensais, clairement, il y a besoin de créer un lieu comme ça. Les familles ont envie de se retrouver. Elles ont envie d'un lieu où leurs enfants peuvent aussi jouer tranquillement dans un endroit sécurisé. Et bon, il y a aussi le besoin où on est dans une région où on est vite isolé aussi. Et voilà, rompre cet isolement aussi, de pouvoir se retrouver sur des temps conviviaux. C'est une des bases du projet. Ça a bien évolué, ça a vraiment grandi. Arrivé au mois de novembre, où on a appris que le projet était soutenu financièrement par la Fondation de France, entre autres. Donc ça a vraiment mis un pied à l'étrier. Moi, j'ai rejoint l'association à cette période-là, parce que je venais d'emménager sur Gap. J'avais cette idée-là aussi. Et pour ma part, c'est vraiment venu de mon expérience à l'étranger, que ça soit parce que j'avais vécu au Canada, j'ai vécu en Suède, j'ai vécu aux Pays-Bas. Et comme je disais, voilà, souvent les cafés sont très adaptés déjà pour les enfants de base. On y trouve déjà de tout. Il y a vraiment des endroits où il y a des espaces de jeu pour les enfants, où il y a vraiment du mobilier pour les enfants. Donc voilà, je trouvais que ça manquait régulièrement. Effectivement, à Gap, il n'y avait pas grand-chose dans ce sens-là. Il y a un super café qui s'appelle Le Petit Saloon, mais c'est vrai que l'endroit peut être vite restreint. Et du coup, moi, je suis arrivé en décembre. Et voilà, donc avec l'association, on porte le projet. L'idée, c'est, si tout se passe bien, si tout continue là, dans la bonne étoile qu'on a, ce serait d'ouvrir, on l'espère, cet automne, un lieu qui soit un véritable café, dans lequel il y aura des espaces pour pouvoir manger, des endroits pour vraiment s'installer confortablement, des endroits où on peut se mettre aussi avec ses petits en bas âge, en très bas âge, qui sont un endroit sécurisé, où les enfants peuvent évoluer aussi au sol. Et voilà, que même les plus grands enfants aient possibilité de jouer, qu'il y ait des jeux de société, voilà, ce genre de choses. Et surtout que ce lieu soit un lieu dédié à la parentalité et à tout ce qui tourne autour. Donc la périnatalité, l'éducation, alimentation, santé, etc. Donc que ce lieu soit animé par toute une vie culturelle qui tournerait autour de la parentalité. Donc on a déjà un certain nombre de personnes qui sont prêtes à s'investir là-dedans pour mener des ateliers découvertes sur différentes thématiques, hein, que ce soit l'alimentation ou peu importe. Il y a des personnes qui voudraient mettre en place des stages, par exemple pour apprendre la langue des signes pour les bébés, pour pouvoir communiquer avec ses enfants avec les signes, parce que c'est vraiment super intéressant et ça limite beaucoup de frustration aussi. Il y a plein de choses comme ça, toute une vie culturelle qui va s'organiser. Et pour pousser un peu plus loin, bah peut-être des groupes de parole entre... Quelque chose que j'aimerais faire, ce serait des groupes de parole entre pères, pour que bah, les papas puissent aussi discuter entre eux, parce que souvent c'est quelque chose dont on est mis à l'écart ou dont on se met à l'écart aussi, mais qu'il puisse y avoir peut-être voilà, quelques temps qui sont réservés pour les papas et leurs enfants. Ou, je ne sais pas encore, il y a beaucoup de choses à créer. Que ça puisse être animé par des conférences, par des visionnages de films. L'idée, en tout cas, là-dedans, c'est déjà de créer un lieu de convivialité où on se sent bien, où on a envie de rester un petit moment avec ses enfants, de pouvoir favoriser aussi les liens entre les parents et les enfants, que les parents apprennent peut-être à regarder différemment leurs enfants au travers d'activités. Ce qu'on souhaite aussi, c'est apporter une diversité d'outils concrets à disposition des parents, parce que c'est pas simple d'être papa, c'est pas simple d'être maman, avec la fatigue, avec les rythmes qu'on a, ben, parfois on manque de patience. Alors comment on peut faire quand notre enfant ça fait 5 fois qu'on le recouche dans sa chambre et qu'il veut toujours pas dormir? Donc voilà, donc on essaye vraiment d'amener beaucoup de créativité, beaucoup, une certaine vie culturelle pour que chacun puisse se saisir un petit peu de tout ça, se l'approprie et se ramène dans son cercle familial. Et il y a aussi toute une partie à destination des professionnels pour créer du réseau entre professionnels de l'enfance, de l'éducation. C'est aussi une autre partie du projet.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ce réseau de professionnels? Est-ce que il y aura, par exemple, des pédagogues Montessori ou Freinet ou...
On a des personnes avec qui, a priori, on travaillera déjà, je pense, à leur tuette. Après, voilà, ce que notre volonté aussi, bah, c'est que sur le territoire, il y a vraiment plein de potentiel. Il y a plein de professionnels différents qui ont plein de compétences. Mais c'est difficile de trouver les informations, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Ce qu'on aimerait, c'est que les gens puissent déjà se rencontrer, parce qu'en se rencontrant, il y a des nouveaux projets qui fleurissent. Que ce soit aussi bien du milieu libéral, donc des personnes qui sont vraiment en tant que consultants en parentalité ou ce genre de choses, que du milieu plutôt public. Donc je pense par exemple... je sais pas moi, des associations locales qui m'aident dans un certain sens, ou je sais pas, mais voilà, que tous ces professionnels puissent déjà se rencontrer, que ça puisse faire naître d'autres projets et que ça puisse être mis à la connaissance aussi des familles pour qu'elles puissent s'en emparer. Que s'il y a des choses qui se passent sur le territoire gapensé, il puisse y avoir un agenda et que les gens puissent savoir qu'est-ce qui se passe autour de la parentalité ici, parce que vraiment il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Et on n'est pas forcément au courant. Nous, on essaie de faire le maximum ici, enfin en tout cas. Pour ma part, et on manque d'informations, justement, de savoir qui est branché éducation positive et professionnelle, qui peut donner des conseils aux parents. Justement, qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui manquent de patience?
Si vous avez la solution, je veux bien savoir. C'est pas toujours simple. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a peut-être déjà savoir qu'est-ce qui nous fait manquer de patience au quotidien. Est-ce que ça vient du travail? Est-ce que c'est des problèmes d'organisation dans la maison? Est-ce que ça peut être des relations de couple? Je pense que c'est important de se questionner tout ça, parce que souvent, quand on manque de patience, la colère n'est pas loin. Frustration, parce que ça vient aussi du fait qu'en tant que parent, on a aussi nos propres limites et que c'est important de les écouter. Mais je crois que c'est aussi une des bases de la parentalité positive, bienveillante, peu importe. C'est important en tant que parent de vraiment s'écouter, de savoir où sont nos limites, de pouvoir les reconnaître, de les expliquer aussi à nos enfants, parce qu'ils ont besoin de comprendre aussi pour qu'à un moment donné, on peut se fâcher, parce que vraiment on a été excédé par certaines choses. Mais au-delà de tout ça, si on veut pousser, c'est se dire, qu'est-ce qui vraiment me pose problème? Est-ce que c'est des choses du travail que je ramène à la maison? Est-ce que c'est, des problèmes d'organisation, des problèmes financiers? Donc voilà, tout ça va forcément jouer aussi dans nos relations avec nos enfants. Et c'est peut-être important de pointer du doigt les choses pour peut-être trouver des solutions à tout ça. Ce qui est important aussi, c'est que finalement, notre état d'esprit, notre état d'être, notre bien-être en tant que parent va forcément influer le bien-être de nos enfants. Et si on rentre stressé, contrarié le soir du travail, Il y a des chances pour que le coucher soit plus délicat aussi, parce qu'on va manquer de patience, parce qu'on n'est pas vraiment présent auprès de son enfant au moment de son coucher. Et nos enfants ont clairement besoin de nous à tout moment, je pense à tout âge aussi, pour être rassurés, pour pouvoir passer la nuit. Donc voilà, donc il y a tout ce regard-là à voir sur son quotidien. Et peut-être y prêter vraiment attention, parce qu'en améliorant tout ça, ça aidera forcément à améliorer notre relation aussi avec nos enfants. Après, il n'y a pas de recette magique. Je pense qu'il faut déjà peut-être s'autoriser à regarder ça, à prendre le temps voilà, pour voir les choses telles qu'elles sont au jour le jour.
Mais je pense que ça va être le mot de la fin pour cet épisode-là. On va faire une pause cet été pour cette chronique et puis on va se retrouver en septembre. En tout cas, Antoine, merci beaucoup d'être venu dans nos locaux. On souhaite que votre projet vienne au jour cet automne et vous nous tiendrez au courant.
Avec plaisir, j'espère que vous viendrez quand il y aura l'inauguration. Donc pour rappel, donc le projet ça s'appelle Au Petit CAF, on a un site internet, c'est www.aupetitcaf.fr. Ça risque d'évoluer pendant l'été parce que voilà, on est en train de faire avancer les choses. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, c'est Le Petit CAF sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à envoyer aussi si jamais vous avez des idées en termes, je sais pas, d'ateliers ou des propositions à faire ou des réflexions, parce qu'on est vraiment preneurs. L'idée c'est que ça soit quelque chose de citoyen aussi, qui appartient aux parents, et que ça puisse vivre aussi de la contribution de tous.
Bien, l'appel est lancé. Merci bien.
Merci à vous.
To